écoutez le studio Kalangu, il est 17h. Dans un instant, le journal en français, dans une présentation de Rafika Taher. À la une ce soir, l'atelier sur la prévention de la violence et des conflits, rôle des médias, organisé par la Fondation Hirondelle à Ouagadougou, a pris fin ce jour. Suivez dans ce journal les impressions de quelques participants. La COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte tire aussi vers la fin. Un membre de la délégation nigérienne sur place s'est prononcé sur la question des pertes et dommages. La partie magazine de ce soir parlera de l'importance des bandes par feu à Bermo. Bonsoir à tous et bienvenue. Fin ce soir de la première session de l'atelier de formation organisé à Ouagadougou au Burkina Faso par la Fondation Hirondelle sur le thème « Prévention de la violence et des conflits, rôle des médias ». Elle a réuni 25 journalistes de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Quelques participants tirent la synthèse des acquis au micro de Fadel Allo.
On a pris la responsabilité du journaliste face à l'information, que toute vérité n'est pas bonne à dire, que des fois qu'il faut faire de la rétention d'informations, qui n'est pas dire cacher la vérité aux gens. On a appris les uns des autres comment telle personne travaille dans son pays, quelles sont les difficultés auxquelles ce journaliste est confronté et comment il fait pour contourner certaines barrières dans l'exercice de sa fonction au quotidien.
Le journaliste doit toujours avoir à l'idée l'intérêt général. Nous avions appris que nous pouvons nous intéresser à certaines questions en mettant tout le monde dans nos interviews. Nous devons toujours apprendre à donner la parole à ceux qui sont conciliants et non à des gens qui sont extrémistes, qui tirent toujours la couverture de leur côté et qui ne savent pas dire dans leur langage des paroles de paix, des paroles de cohésion sociale.
Les éleveurs de la région de Diffa ont amorcé leur descente du nord vers les régions agricoles où les libérations des champs n'ont pas encore été prononcées par les autorités. Cette descente cause souvent des barrages. Les dernières ont fait 4 morts la semaine passée, d'où cet appel du directeur régional de l'élevage, Bourema Halidou, au micro de Mani Moussa.
Vous savez, de tout temps, les éleveurs, quand ils font leur descente avant que les producteurs ne finissent leur récolte, c'est un grand problème. L'appel que nous lançons, c'est que chacun sache qu'il y a une réglementation. Aussi, c'est par consensus que, ensemble, nous nous sommes accordés à définir la date de la libération des champs. La date n'est pas arrivée et les éleveurs ont commencé à descendre. Donc là, il y a une provocation. Qu'ils laissent cette pratique. Ceux qui ont commencé répondront de leur acte. Les éleveurs ont leur richesse, qui est le bétail. Les producteurs ont leur richesse, qui est leur champ, alors que chacun respecte la richesse de l'autre. C'est cela, la paix. Si nous souhaitons vivre ensemble, en communauté, dans la bonne cohésion, chacun doit respecter cela. Et c'est ça, la paix. Nous devons tout faire pour rester en paix, tout en nous disant comment dois-je respecter la loi.
Dans la région de Tawa, le département de Birnin-Oni est confronté chaque année en cette période à des feux de brousse. Ces feux sont causés par les vents. Pour prévenir ces incendies, le directeur de l'environnement de Oni, le colonel Moussa Iliassou, rappelle quelques mesures de précaution au micro de Assouman Arzika.
Nous demandons que la population soit prudente, car c'est à cette période que les feux de brousse sont fréquents. Chacun le sait, les feux de brousse, tout comme les incendies dans les maisons, sont une catastrophe. Quelle que soit la personne, il est difficile qu'elle provoque consciemment un feu de brousse ou d'incendie, puisque le feu peut se déclencher subitement. Et le feu engendre d'énormes dégâts, donc il va falloir être très 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 prudent, surtout par rapport à l'incendie dans les maisons. J'en appelle aux femmes quand elles finissent leur cuisine. Il faut qu'elle s'assure que le feu est complètement éteint, surtout de rester à l'écart des hangars et s'assurer que le vent ne souffle pas vers les habitations. S'il est même possible, il serait mieux d'utiliser le foyer amélioré que l'on construit avec le banco. Celui-ci contribue beaucoup à la prévention des incendies dans les maisons. Il faut également éviter de déposer de l'essence et de la paille dans les concessions.
Faisons un tour en Égypte où la conférence des parties sur le changement climatique COP27 tire vers sa fin et les discussions notamment autour de la question des pertes et préjudices traînent au goût des pays africains. On risque d'aller vers la déception si une solution n'est pas trouvée en Égypte, a déclaré Gousmane Moussa, membre de la délégation nigérienne à Sharm el-Sheikh. Il est joint au téléphone par Rahila Toussoumana.
Nous sommes à la veille ou même le jour de la clôture de la COP, mais les négociations traînent parce que tout simplement, elles nécessitent la mobilisation des ressources. Par rapport à ces trois thématiques, l'adaptation, le financement et les pertes et dommages. Quand je prends par exemple l'adaptation et même l'atténuation, les pays développés ont pris l'engagement depuis 2019 de mettre à la disposition des pays en voie de développement chaque année un montant de 100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, après 12 ans, le total qui a été mobilisé près de 83 milliards. Nous avons aussi un autre engagement qui a été pris l'année dernière à Glasgow, relatif au doublement du financement de l'adaptation. Là, le montant devrait passer de 20 milliards à 40 milliards, mais on se rend compte que rien n'a été fait au cours de cette COP. Un autre élément très important, c'est les pertes et préjudices. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos pays sont en proie à d'innombrables sécheresses, désertifications et puis inondations. Et nous demandons aux pays de mettre en place un fonds. C'est l'une des questions qui fait aujourd'hui qu'on pourrait même prolonger la COP de 24 heures.
Le 23 novembre prochain va démarrer à Niamey la cinquième campagne de pose de prothèses articulaires de la hanche et du genou. Beaucoup de patients souffrent du manque de ces prothèses, d'où la raison de cette campagne régulière. Dr Fumako Igado Adamu, directeur médical à l'hôpital général de référence de Niamey, au micro de Karim Hassoumi Gourouza.
Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de pathologies rhumatismales, qui sont atteintes de drépanocytose ou tout simplement qui ont été victimes d'accidents de la circulation ou d'accidents domestiques qui provoquent des lésions au niveau du genou et au niveau de la hanche. Lésions qui malheureusement sont irréversibles et dont le seul traitement devient un remplacement total de l'articulation. Donc il faut entendre ici, lorsqu'on parle d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou, le fait que l'on utilise un dispositif artificiel qui est fait dans une matière spéciale que l'organisme ne rejette pas pour remplacer toute l'articulation. Donc en quelque sorte, on enlève toute l'articulation du genou et on la remplace par un dispositif artificiel. Et on fait de même également au niveau de la hanche. Donc sur l'os du bassin, on place un dispositif. Sur le fémur, on place un dispositif et la personne se retrouve avec une articulation toute neuve.
Le gouvernement du Niger a décidé d'organiser à la fin du mois de novembre 2022 à Niamey les assises des ONG. Cette rencontre, selon le ministre de l'Environnement, du Territoire et du Développement, de l'Aménagement plutôt, du Territoire et du Développement communautaire, permettra de jeter les bases d'une performance de ces ONG. Mamman Mahamman Ibrahim, ministre de l'Aménagement du Territoire, au micro de Assoumane Aboubakar.
Les dernières statistiques sur la contribution des ONG dans le cadre des actions de développement, notamment le PDS 2017-2018, donnent environ 13% de contribution des ONG. C'est donc dire combien ce secteur est important pour le Niger. Alors il se trouve qu'il y a un certain nombre de préoccupations et que si on ne prend garde, ça peut saper tous ces efforts que les ONG sont en train de faire au Niger. Et c'est pourquoi le président de la République nous a demandé d'organiser des assises nationales au cours desquelles nous allons tous ensemble venir discuter, faire le diagnostic de la situation, dégager les difficultés et les avantages et ensemble réfléchir sur la conduite à tenir avec comme seul objectif d'améliorer la performance donc des interventions de ces ONG.
Les travaux de la section route nationale numéro 7 d'Osso-Béla a été pendant des années un véritable calvaire pour les usagers. Cette section de route longue de 83 km est en voie de finition selon la société en charge des travaux. Les premières couches du bitume sont posées. Issoufa Aliou, technicien de l'entreprise, est au micro de Nana Hadiz Hassan.
Les travaux de la route Béla d'Osso sont bien exécutés. Les travaux se poursuivent comme il se doit. Je peux vous dire que le gros du travail est déjà fait, puisque nous sommes déjà au PK0, où c'est la deuxième couche seulement qui reste à faire pour une distance de 10 km. D'ici une semaine ou dans 10 jours, tout sera fin prêt. Vous savez, pour de tels travaux, quand on arrive dans la ville, il y a toujours des difficultés qui sont relatives à certaines personnes qui ont du mal à comprendre. Lorsqu'on leur demande de se ranger, ils pensent qu'ils sont dérangés, alors que c'est juste pour quelque temps. Et ensuite, ils vont voir leur milieu très coquet. Au cours des travaux, certains conducteurs de motos ou de véhicules, quand on leur demande de changer de direction pour emprunter la déviation. Il n'en perd pas. Notre souhait, c'est de voir ces travaux finir d'ici la fin de ce mois. Oui, c'est à partir de Agali que la deuxième couche est en train d'être réalisée. Et de Agali à ici, c'est le PK0 dont la deuxième couche va être finalisée.
Deuxième couche, Dans la page sport de cette édition, c'est officiel, l'international sénégalais Sadio Mané ne disputera pas avec ses coéquipiers la Coupe du monde du football Qatar 2022 pour cause de blessure, selon le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Une annonce qui a secoué le monde des amoureux du ballon rond. Comment les Sénégalais vivant à Niamey ont accueilli cette annonce? Maman Ada et Salamatou Kadri ont recueilli leurs réactions.
C'est quelque chose de très difficile pour toute la nation sénégalaise, y compris tout le peuple africain. Mais le football aussi, c'est un jeu de collectif. Donc, on ne peut pas se focaliser seulement sur Sadio Mané. Il y a d'autres joueurs qui sont là. Ouais, on comptait trop sur lui-même. Il était comme, on peut dire, notre Neymar ou bien avec le Brésil ou bien notre Messi avec l'Argentine. Nous aussi, il était notre Mané spécial, quoi.
Et mais nous, Sénégalais, une bouche de Sadio Mané pour aller pour Coupe du Monde. Parce que nous, on l'aime Sadio Mané, quoi. Tout le Sénégal, il aime Sadio Mané. Parce que Sadio Mané n'est pas sur Coupe du Monde, là. C'est beaucoup d'empêchements pour les Sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, mais n'est pas comme Sadio Mané.
Je ne pense pas qu'il ne va pas participer. Bon, Dieu a fait qu'on a dit officiellement, il est forfait. Mané, maintenant, ce n'est plus pour le Sénégal seulement. Depuis qu'on l'a entendu, toi qui es Nigérien, moi Sénégalais, il y a beaucoup d'autres nationalités, même ceux qui n'ont pas qualifié aussi. Il faut dire que même si ce n'est pas le foot, c'est une idole aussi.
Et l'ouverture des compétitions de la Coupe du Monde 2022 au Qatar est prévue ce dimanche 20 novembre. 5 équipes africaines prennent part à ce rendez-vous mondial. Aujourd'hui, Lawali Garba, technicien de football, explique les chances des Black Stars du Ghana au micro de Soumana Amadou.
Le Ghana, logé dans le groupe H. C'est un groupe qui est très intéressant parce que le Ghana va jouer contre l'Uruguay. C'est le match le plus attendu car nous gardons toujours le souvenir du 2 juillet 2010 en Afrique du Sud de la main de Suarez qui a sorti le ballon du but et privé le Ghana d'un but de qualification. Il y a eu penalty, mais le penalty a été raté par Jeanne Asamoah. Donc c'est un match de la revanche. C'est un groupe qui est très relevé. Mais si le sélectionneur arrive à créer un bon mixage entre les jeunes talents et les anciens joueurs, on peut espérer les voir au second tour aussi.
La réalisation cette année des bandes par feu pour lutter contre les feux de brousse dans le département de Bormo donne déjà des résultats satisfaisants pour le directeur régional de l'environnement de Maradi. Si aujourd'hui on compte moins de 10 feux de brousse et 200 hectares consumés, c'est parce que ces bandes par feu ont été réalisées à temps. Le colonel Hamza Barmo au micro de Mohamed Maman.
Cette année, depuis le lancement, la direction régionale a déjà fait quelque chose en termes d'ouverture des bandes par feu. Il y a 193 kilomètres qui ont été ouverts. Le PRAS aussi a fait un autre lancement dans le cadre de ses activités. Donc actuellement, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Parce que le problème qu'on a constaté, c'est que dans les années passées, les pare-feux s'opèrent en retard. Généralement, c'est en fin décembre, début janvier que cela commence. Mais cette année, suite au forum qui a été tenu à Niamey, et forum qui a recommandé que ces travaux d'ouverture des bandes par feu doivent commencer à temps. Et je crois que la ministre a donné le coup d'envoi à temps, donc le 21 septembre, ce qui a fait que déjà toutes les ONG ou les partenaires qui financent ces opérations-là ont suivi le mot d'ordre donné par la ministre. Et fort heureusement, donc, cette année, en tout cas, je pense que même le nombre de cas de feu qu'on a enregistrés ne sont pas nombreux. On a moins d'une dizaine de cas de feu de brousse dans la région et qui ont bousillé environ moins de 200 hectares. Donc, vraiment, je crois que comparativement aux années antérieures, on peut se féliciter. Il y a eu moins de dégâts à cette date-là. Nous osons espérer aussi que, en tout cas, avec les efforts de sensibilisation qui sont en train d'être faits, non seulement par les communes, les services techniques, mais aussi par les ONG. Et je crois qu'il y aura moins de feux de brousse cette année.
C'est quoi l'importance de la réalisation des bandes par feu, monsieur le docteur?
L'importance de la réalisation des bandes par feu, c'est de limiter les dégâts. Il y a des feux qui peuvent être volontaires, il y a des feux qui sont involontaires. Mais la plupart des cas, ces feux-là sont involontaires. C'est dû à la négligence de ceux qui utilisent le feu en zone pastorale ou même en zone agro-pastorale. Une fois qu'un feu se déclare, même sans intervention humaine, si ces bandes par feu-là sont déjà réalisées au préalable, ça veut dire que tout feu qui arrive au niveau de la bande, il s'arrête de lui-même. Parce que la bande, c'est un espace dépourvu de toute herbe. C'est une largeur de 20 à 25 mètres selon la taille du tapis herbacé. Donc une fois qu'un feu arrive, il n'a plus rien à brouter. Il s'éteint de lui-même.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous écouterez Ternan Foudé Ahmed pour la présentation du journal en tamashek. À 18h15, suivez le forum de la presse avec Nafisa Adamou Sirfo.